Je laisse tout de suite la parole à Philippe Biden qui va nous introduire donc la table ronde « Comment devenir franc-maçon ».
Merci. Bienvenue d'abord dans ce temple moyen. Comme vous le savez, nous autres francs-maçons sommes tous riches, influents, dotés d'un réseau absolument imparable. Il ne peut rien nous arriver dans la vie sociale. Voilà un programme qui, évidemment, est de nature à attirer pas mal de monde. Alors beaucoup s'interrogent, mais comment devient-on franc-maçon ? Est-ce qu'il suffit de frapper à la porte ou bien est-ce que ça se propose uniquement sur un phénomène de cooptation ? Il y a plein de possibilités et pour débattre de cette procédure, comment devient-on franc-maçon, j'ai le plaisir d'accueillir Jacquin Bédé, c'est son pseudonyme. Il est dessinateur d'un livre des francs-maçons aux éditions Dervy. J'ai Laurent Kupferman qui est consultant en communication, conférencier, chroniqueur pour l'émission de Colonne à la Une et qui a écrit notamment « 3 minutes pour comprendre la franc-maçonnerie ». Enfin, Philippe Yénard, qui lui est avocat, auteur de « Mais que font les francs-maçons en loge ?»,« Regard sur la franc-maçonnerie » et bientôt va sortir une histoire de la franc-maçonnerie belge. Alors, mes amis, ben, je vais d'abord vous poser une petite question et le premier qui veut y répond, effectivement, comment êtes-vous devenu maçon ?
Vous l'entendez comme ça ?
Moi, je suis devenu franc-maçon en 1994 parce que je cherchais. Je viens d'une famille mixte, c'est-à-dire que mon père était d'origine juive et ma mère est catholique et allemande. Et je cherchais une voie qui me permette, une voie singulière en réalité, une voie qui me permette de travailler.
Alors si c'est sur la même question, ça va être un petit peu plus court pour ce qui me concerne, parce que tout le monde connaît les aventures d'Astérix et Obélisque. Hein ? Eh bien, moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dans la soupe quand j'étais petit. Mon grand-père était franc-maçon, mon père aussi, et bien que ni l'un ni l'autre ne m'avait parlé de rien et que je ne me doutais de rien, je me suis un jour retrouvé en loge en apprenant que et mon père et mon grand-père étaient maçons. Et en plus, ce qui est extraordinaire, évidemment, il est français, je suis belge, donc je vais parler de la maçonnerie belge. Ce qui est extraordinaire, c'est que mon grand-père était maçon dans une des plus anciennes loges du Grand Orient de Belgique, qui est la Parfaite Union à Mons. Parfaite Union qui n'est pas née en 1725. Enfin, ça, dans un livre d'histoire qui va paraître, vous le saurez, elle est née bien plus tard. Bref, mais mon père était maçon dans une autre loge qui s'appelait la Parfaite Union, à la Grande Loge de Belgique. Et ça, c'est extraordinaire, parce que l'un et l'autre étaient maçons, pas dans la même obédience, mais dans une loge qui portait le même nom. Et moi, forcément, je suis atterri dans la soupe de la Grande Loge de Belgique à la Parfaite Union, à Namur. C'était il y a une petite trentaine d'années. Mais enfin, voilà. Que dire de plus ? Rien pour le moment.
Alors, pendant mon cas... je ne sais pas si le micro fonctionne. Si, oui. Dans mon cas, moi, j'ai été initié en franc-maçonnerie en 1998. Je fais un petit effort parce que je ne suis plus en France. Pour les Français, en 98. Et c'est un peu particulier, c'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'avais un prof d'allemand qui était fort sympathique, qui me trouvait fort sympathique, bien que je sois l'un de ses plus mauvais élèves, étant donné que ma note oscillait déjà aux alentours de 7. Mais c'était une constante. J'avais tout le temps 7 en allemand, donc autant vous dire que je n'étais pas très doué pour les langues. Mais dans tous les cas, on avait sympathisé, et il nous avait laissé à ses élèves à l'époque, il nous avait dit « donnez-moi de vos nouvelles », et il nous avait donné ses coordonnées. Et j'étais l'un des seuls à l'appeler. Et au fil des années, parce que ça a pris quelques années, de 87 à 98, donc au fil des années, je commençais un petit peu à avoir une vie professionnelle pas forcément très intéressante, donc je m'étais plongé vers des lectures pour combler les longues heures de garde que l'on m'infligeait. Et dans ces lectures, j'avais commencé à m'intéresser un petit peu à l'ésotérisme. Et j'en parlais un petit peu avec lui. Ah, j'ai lu tel bouquin écrit par un tel ou une telle. Je ne comprends pas bien, ça a l'air intéressant. Ainsi que d'autres questions, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, quand on est entré, c'est parce qu'on avait besoin de quelque chose. On avait peut-être, je dis bien peut-être, on avait une forme de vide à combler, quel qu'il soit. Et moi, j'avais un vide à combler qui était celui de une ambition, celui de ne pas devenir un téléspectateur forcené de TF1 ou de RTL TV. Oui, ça doit être RTL TVI, l'équivalent, d'essayer de m'élever un petit peu intellectuellement et spirituellement. Il y avait beaucoup de travail dans ce cas-là, mais il fallait que je m'élève intellectuellement et spirituellement. Et par le biais de cet ami, qui m'écoutait avec bienveillance, qui répondait plus ou moins à mes questions, j'avais une fois par an, vu qu'on s'appelait généralement la rentrée scolaire en France, j'avais la possibilité de m'épancher et de poser quelques questions qui me permettaient de sortir de mon quotidien. Et puis, en 97, il y a eu ce moment où il m'a dit « Tiens, je t'invite à bouffer. Je vais te donner une nouvelle qui va te changer la vie. » Chouette, il est millionnaire, je vais... Bon, j'ai été extrêmement déçu, bien entendu, parce que j'aurais tellement aimé, mais il m'a dit que... Et là, il s'est dévoilé, il m'a annoncé qu'il était franc-maçon, et il m'a dit qu'il souhaitait que je le rejoigne. À l'époque, j'avais 27 ans. Pour moi, la franc-maçonnerie, je n'en avais entendu parler que dans les journaux, les magazines. Mais ça a été le point de départ. Ça a été le point de départ où, en effet, avec les discussions, avec la procédure pour entrer, je me suis véritablement rendu compte que, déjà, un, ce n'était pas aussi simple que ça, et que de deux, j'avais un besoin, et que, en effet, ça allait m'apporter quelque chose. Je crois que j'ai été suffisamment long comme ça.
Tout à fait. Ben, on a évoqué là déjà trois procédures, un peu une tradition familiale, un système de cooptation carrément sur le tard. Tout ça, c'est très bien parce que ça veut donc dire qu'on connaît des francs-maçons. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'en connaît pas? On est intéressé par la maçonnerie?
Merci Laurent. Eh bien, quand on ne connaît pas de franc-maçon, c'est évidemment un petit peu plus compliqué, mais il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est je ne connais personne, mais je fais une démarche envers une obédience, j'écris, ou envers une loge, j'écris. Encore faut-il connaître les coordonnées, ça se trouve sur Internet notamment. Ça se fait. Il y a un suivi qui est réservé à ce type de démarche, parce qu'après ça, on entre en contact avec vous. J'y reviendrai dans une seconde. Et puis la deuxième démarche, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est qu'il y a eu une mode qui est apparue, qui est de faire une démarche lorsqu'on souhaitait postuler pour entrer en maçonnerie via Internet. Et dans ma loge, cette fameuse Parfaite Union dont je vous parlais tout à l'heure et dont j'ai été vénérable maître il y a quelques années, eh bien nous avons eu le plaisir d'initier notre premier bébé Internet, c'est-à-dire notre premier frère que nous ne connaissions absolument pas, qui ne connaissait absolument personne et qui a fait cette démarche tout seul. Et puis comme on avait créé un site Internet, on est entré en contact avec lui. On a rencontré quelqu'un d'extraordinaire qui est devenu un frère génial. Et voilà, je voulais terminer en disant ceci. Si vous ne connaissez personne, il n'y a jamais des maçons qui soient très loin de vous. Et donc, ce n'est pas compliqué. Faites-le, prenez cette initiative. On ne le dit jamais assez. La maçonnerie est accessible à tout le monde. Ça n'est pas une société secrète qui se cache pour ourdir des complots. Et donc, tout le monde y est le bienvenu. Tout le monde peut dire « j'ai envie de devenir franc-maçon ». Les conditions préalables, elles sont humaines. Être probe, c'est-à-dire honnête, c'est bien le minimum qu'on puisse demander. Être libre, pas assujetti à un dogme quelconque, être libre de sa pensée et être de bonnes mœurs, quand même. Le reste, ce sont des petites choses dont on parle entre nous, parce que quand on se choisit un frère ou une sœur, il faut savoir si on va s'aimer, si vous serez heureux en loge, si nous serons heureux avec vous. Et là, ça devient du subjectif. Mais tout le monde peut vouloir devenir franc-maçon, c'est ouvert à tous.
Oui, je voudrais rajouter sur ce que tu disais, qu'en fait, la maçonnerie, c'est un lieu, c'est une méthode qui permet de rassembler des hommes et des femmes, comme on dit, rassembler ce qui est épars, c'est-à-dire rassembler des individus qui n'ont qu'un seul dogme, parce qu'il y en a quand même un, je crois, c'est celui de croire en la perfectibilité de l'homme. Et c'est quand même assez acceptable, cette idée. Mais ça sépare quand même le monde entre ceux qui sont dans l'éternel scepticisme, qui pensent que l'homme est condamné à rester, à cultiver ce qu'il y a de plus néfaste, et puis les maçons et les maçonnes qui pensent que l'humanité a un idéal et peut accéder, dans un terme que nous ne vivrons pas, bien évidemment, nous ne sommes que des maillons d'une chaîne, mais en tout cas, nous devons tendre vers cet idéal. Et c'est, je crois, ce qui a fait le succès de la franc-maçonnerie dès le départ, au XVIIIe siècle, parce que c'était un lieu où il existait, quel que soit l'endroit, ça peut être en Angleterre, en France, en Belgique, peu importe, c'est un lieu où il existait une certaine capacité de parler en dehors de la parole officielle, que ce soit celle du trône ou que ce soit celle de l'autel. Et c'est ce qui a fait, je crois, qui a donné cet essor incroyable et imprévu aux loges maçonniques, parce qu'elles n'étaient pas destinées au départ à connaître ce succès aussi important.
Si je peux me permettre de rajouter, la franc-maçonnerie elle a des défauts, bien entendu. Je pense que ça sera peut-être évoqué tout à l'heure. Mais il y a aussi cette forme d'idéal où la franc-maçonnerie est porteuse d'espoir pour les personnes qui la composent. Donc porteuse d'espoir dans l'être humain et dans l'humanité. Et dans cette espèce de possibilité que nous avons de changer les choses. Alors, il y a plusieurs moyens d'aborder ce sujet, mais je vais résumer à deux moyens. C'est soit on change les choses directement en ayant une forme d'influence sur la société par nos actions, mais par nos actions personnelles. Soit c'est véritablement encore plus restreint, si on va se changer soi-même, et après par l'exemplarité de ce que nous sommes devenus, et c'est très dur. Par l'exemplarité de ce que nous sommes devenus, nous allons pouvoir prétendre à éventuellement être à pouvoir intéresser d'autres personnes à dire ah mais pourquoi tu as réagi comme ça, pourquoi tu as dit ça, alors que d'autres ils auront des propos beaucoup plus tranchés, toi ça peut-être un peu plus nuancé, tu essayes plus de comprendre les choses en profondeur, pourquoi? Et à partir de là, on peut sentir à certains moments un grand moment de solitude, mais dans tous les cas, c'est le début, c'est on va initier quelque chose, et quelque part, devenir franc-maçon, on n'arrive pas, c'est pas une finalité, c'est juste le début de quelque chose.
Je voulais rebondir sur ce que disait Laurent tout à l'heure, je vais quand même vous confier un secret maçonnique. La maçonnerie, c'est épouvantable. Je vous assure, l'idée de base, et elle reste aujourd'hui complètement vivante, c'est de permettre à des personnes qui ne se connaissent pas de pouvoir, à couvert, c'est-à-dire sans être persécutées, sans être arrêtées pour ça, sans être incommodées pour ça, de pouvoir se parler, échanger en se respectant, en étant d'origine différente, de croyances différentes, de milieux sociaux différents. Alors tout ça a évolué avec le temps. Je vous parle de la maçonnerie d'aujourd'hui. Mais c'est épouvantable, parce que au nom de ça, qui est une réalité, parce que le directeur général d'une grande multinationale se trouve dans le temple, assis à côté d'une personne de conditions sociales modestes, en toute égalité. Alors des endroits où on peut parler de tout, librement, dans le respect, en se respectant mutuellement, dans la liberté de parole, et en toute égalité, tout ça à travers un cheminement qui fait qu'on s'améliore soi-même parce qu'on a conscience d'être perfectible, ce qui est le travail de beaucoup plus qu'une vie, Eh bien, j'en connais pas beaucoup, des endroits comme ça. Et ces endroits-là, ça déplaît. Ça déplaisait beaucoup avant au pouvoir, Laurent en a parlé. Ça déplaît encore aujourd'hui à ceux qui ne sont pas maçons et qui, parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas accès et parce qu'ils pensent que les francs-maçons ourdissent des complots dans l'ombre, ce qui n'est pas le cas, quand je vois, vous savez, à quel point il est difficile entre deux loges d'organiser un barbecue d'été, je vous assure, le complot maçonnique international, c'est pas pour demain. Bon, et donc, mais encore aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que les maçons font des rituels sataniques. Il y a aujourd'hui des gens qui pensent que les maçons et les Illuminati, c'est pareil. Il y a des gens qui pensent que la maçonnerie dirige le monde. Je crois qu'aucun de nous quatre ici, nous ne dirigeons rien d'autre que nous-mêmes, et encore, nous essayons péniblement. Voilà, je voulais juste rajouter ça.
Alors, justement, sur cette diversité en loge, est-ce qu'il n'y a pas parfois un petit biais de la maçonnerie, de par le phénomène de la cooptation, de se retrouver peut-être parfois entre soi ? On connaît tous le phénomène de loge où il y a des majorités de médecins parce qu'un vénérable était chef de service dans un hôpital, recrutait, ou bien des loges composées en grande partie d'avocats ou autres. Comment voyez-vous, ou de journalistes, comment voyez-vous ce type de biais ? Je ne sais pas qui veut réagir.
Je pense que ça n'est pas à proprement parler maçonnique. Ce qui est maçonnique, c'est de rassembler ce qui est épars, c'est-à-dire d'aller chercher des personnalités issues de tous les milieux, de toutes les origines, de toutes les croyances, ou pas, des personnes qui... Si vous voulez, on peut dire que les maçons, certains maçons pensent qu'il n'y a qu'une vérité, mais que un homme ou une femme, à lui ou à elle toute seule, n'est pas capable de la percevoir dans son entièreté. C'est ça le principe, c'est que le regard que chacun va porter sur le réel et qu'il va partager avec les autres va augmenter notre capacité de perception du réel. Donc si vous n'allez chercher que des personnes qui se ressemblent, qui ont les mêmes pratiques professionnelles, les mêmes origines, elles seront quand même différentes. Il ne faut pas exagérer, les gens ne sont pas non plus des copier-coller. Néanmoins, c'est se priver d'une recherche de la différence. Les francs-maçons n'ont pas peur de la différence, au contraire, ils la chérissent comme un facteur d'enrichissement personnel.
Antoine de Saint-Exupéry, non, ça n'est pas lui, mais il pourrait l'être, a écrit cette belle phrase. « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. » Eh bien, en maçonnerie, nous essayons, entre frères et sœurs aussi, parce que, évidemment, nous essayons de pratiquer ça, cette différence-là. Et ça n'est pas suffisant, on ne le fait pas assez, parce que pour répondre à la question de tout à l'heure, on a une fâcheuse tendance, et pas parce qu'on le veut comme ça, mais parce qu'on est humain, à coopter des personnes parce qu'on les fréquente déjà dans la vie profane. Alors il est vrai qu'il y a des loges où il y a un peu plus d'avocats, un peu plus de médecins, un peu plus de journalistes, un petit peu plus d'ingénieurs, un petit peu plus d'enseignants. Bon, on devrait essayer de diversifier ça. C'est une des maladies dont souffre la maçonnerie en interne. Et donc je suis totalement partisan d'essayer de diversifier et la culture, et les croyances, et les origines sociales. Ça ne se fait pas suffisamment. On doit y travailler et on y travaille. Et je vais vous dire pourquoi. La maçonnerie, il y a un certain temps, était plutôt réservée à une certaine noblesse, à une certaine aristocratie. Elle s'est démocratisée, si j'ose dire, en s'élargissant à une certaine grande bourgeoisie. Et puis, elle est encore descendue vers un plus large spectre social en s'ouvrant à tout ce qui était bourgeoisie et profession libérale. Aujourd'hui, en maçonnerie, on rencontre des personnes de toutes origines. Mais il est vrai qu'il y a encore des nids. Je vous parlais de ma loge tout à l'heure, ben, le seul nid, c'était moi. Je veux dire, j'étais le seul avocat là-dedans. Alors qu'il y avait quelques enseignants, quelques médecins. Bon, c'est pratique, les médecins, bon, je ne dis pas. Mais enfin, bon, essayons de diversifier la maçonnerie. C'est vraiment un travail de tous les jours.
Alors, je suis d'accord aussi sur le fait que nous avons besoin de nous diversifier. qu'en effet, on va prendre mon cas, ça va être plus simple. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas le bac, j'ai juste un certificat de fin d'études secondaires, qui en fait, c'est le diplôme de l'échec, c'est le diplôme qui vous dit que vous avez passé le bac, vous êtes rétamé et embotté. Dans tous les cas, ça veut dire que malgré tout, malgré le fait que je n'ai que, en France, on appelait ça le brevet des collèges, le BEPC, on m'a invité à rejoindre la franc-maçonnerie et j'ai été accepté. Peut-être par miracle, je ne sais pas, mais dans tous les cas, j'ai été accepté, je suis encore là. Et c'est vrai que dans mon cas, j'avais besoin aussi de rencontrer des gens qui soient d'horizons différents, de cultures différentes, d'opinions politiques différentes, afin d'être confronté aussi à mes propres contradictions, devenir franc-maçon, c'est il y a le besoin de progresser, et pour progresser, on a besoin d'être soumis à des formes d'épreuves vis-à-vis de soi-même, beaucoup. Et donc d'être mis face à une forme de, je vais dire, de miroir géant, on va dire, ah bah oui, non mais là ça va pas, c'est pas cohérent, tu penses ça, mais tu fais ça, c'est les autres qui vont un petit peu m'aider, qui m'ont aidé, que je peux parler que de mon cas personnel, je ne peux pas parler pour les autres, qui m'ont aidé à prendre conscience de certaines choses. Et c'est grâce à cette diversité et à des gens qui ne sont pas de la même culture, qui ne sont pas nés dans les mêmes pays, les mêmes pays que moi, que ça m'a permis d'avancer un petit peu.
Oui, on a parfois l'impression, vu de l'extérieur, que la maçonnerie réservait à une forme d'élite intellectuelle, notamment en termes de formation. Et c'est vrai que peut-être plus en Belgique qu'en France, il y a moins peut-être d'ouverture vers des professions artisanales ou d'autres choses. J'ai souvent le sentiment en France d'avoir plus de mixité sociale qu'en Belgique. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je te donne tout de suite la parole, mon frère. Mais je crois que ce que dit Jacquin est intéressant parce que la maçonnerie, ce n'est pas le Collège de France ou l'équivalent en Belgique, je ne sais pas ce que c'est l'équivalent. Ce n'est pas une institution universitaire, ce n'est pas le propos de la maçonnerie, c'est de gagner en intelligence de soi. C'est le langage symbolique, c'est ça la force du langage symbolique, c'est que c'est un langage qui nous est commun, c'est une nouvelle grammaire qu'on apprend qui permet d'appréhender des formes de sensibles et qui permettent de trouver des résonances. Et c'est surtout un langage qui nous est commun. Ce que va évoquer un symbole pour moi ne sera pas la même chose que ce que va évoquer le symbole pour toi, et pourtant ça va nous parler à tous les deux. On cherche à développer une intelligence commune, une intelligence du cœur, une science infuse, comme on appelait ça il y a quelques siècles. Et je crois que c'est intéressant, et effectivement ça passe aussi par la perméabilité sociale.
J'allais dire la même chose.
Je le savais, c'est pour ça que j'ai parlé avant.
Voilà, mais écoutez, on va écouter Jacquin, hein, puis je vais réfléchir à ce qu'il aura dit.
Merde. Alors, je suis par rapport à la question sur l'apport que peuvent avoir des métiers qui sont moins des professions, on dit intellectuelles supérieures. Je vais vous citer juste un exemple, c'est une série de documentaires que j'ai regardé très récemment sur la construction du château de Guédelon, donc qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un château qui est construit actuellement avec les techniques de construction du Moyen-Âge. Et pour beaucoup de francs-maçons, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie opérative, c'est un concept, c'est très joli tant qu'on n'a pas à le faire soi-même et à vraiment tailler des pierres, etc. Mais cela dit, ce documentaire a une vertu, c'est-à-dire qu'on voit des gens travailler avec des outils que nous, on utilise en symbole et qui nous sont familiers, mais là, on les voit mis en œuvre. Et le fait de les voir mis en œuvre, et je le répète, pour moi, ça a été quelque chose qui a été véritablement une forme de révélateur qui m'a permis de mieux comprendre la définition que peuvent avoir certains symboles. Parce que je fais partie d'une franc-maçonnerie qui est plus symbolique que sociétale, donc qui va plus s'intéresser, par exemple, à l'ésotérisme que de s'intéresser à des problèmes de société. Et mais des fois, on manque de concret. Et j'ai besoin, que d'être rattaché un petit peu au réel, qu'il y ait quelque chose qui soit un peu ancré dans une réalité, voire même, de fois, j'ai besoin, je vais dire une bêtise, mais de faire mon pain moi-même, je le fais. Donc, de faire mon pain moi-même, de pétrir, etc., parce que ça m'apprend des choses pour moi.
Voilà, maintenant, j'ai trouvé quelque chose à dire.
Ne me remercie pas, surtout.
Les francs-maçons sont des personnes qui ont les pieds sur terre, l'amour au cœur et la tête dans les étoiles. Et pour ça, c'est une affaire de valeurs humaines. Point n'est besoin d'avoir fait des études ou de hautes études. Ce n'est pas là qu'elle est la clé. La clé, elle est à l'intérieur de soi. La maçonnerie, elle pratique quelque chose de très très vieux. Vous savez, il y a un monsieur qui, il y a très très longtemps, en moins 400 et quelques, a été condamné à boire de la ciguë. Il en est mort, c'est Socrate, vous savez, bon. Socrate, qui pratiquait ce qu'on appelait la maïeutique, eh bien, Socrate considérait que nous avions en nous le meilleur de nous-mêmes et qu'il suffisait d'aller le chercher. Eh bien, en maçonnerie, c'est un peu la même chose. On essaie de nous indiquer que, en nous, nous avons des choses merveilleuses. À nous d'ouvrir les portes et les tiroirs. La maçonnerie ne nous donne pas forcément de clés, ne nous indique pas forcément de chemin, mais nous éclaire. Et puis après, tout le travail reste à faire. Et cette maçonnerie-là, elle n'est pas élitiste, même si, il faut quand même le dire, il n'y a pas assez, à mon goût en tout cas, en maçonnerie, de personnes de conditions sociales modestes ou de formation modeste ou de milieux culturels défavorisés. On gagnerait en maçonnerie sur deux plans à permettre, à ouvrir les portes à des personnes qui ne sont pas médecins, avocats, etc., qui n'ont pas fait d'études, mais qui ont des valeurs de cœur extraordinaires, une intelligence aiguisée, une approche humaine extraordinaire. On gagnerait à ce que des gens comme ça soient dans les loges. Il y en a, vous savez, mais pas assez. Cette mixité sociale, elle manque encore. De même qu'on gagnerait aussi en maçonnerie à ce que se côtoient des personnes qui ont des croyances différentes. Alors, avoir des croyances différentes, ça ne veut pas dire « je crois en cela et donc j'ai raison, tu as tort et maintenant tais-toi, c'est moi qui parle ». Non, ça, c'est pas maçonnique. Mais on peut se respecter et avoir des croyances non dogmatiques différentes tout en se disant « bon, ce qui est important, c'est de pouvoir se respecter, se parler, aller vers l'autre et être libre de sa pensée ». Eh bien, cette mixité-là, cette multiculturalité-là des croyances, ça manque aussi encore en maçonnerie. Les choses évoluent, mais ça manque encore.
Est-ce qu'à ce stade de la table ronde, il y a des questions dans la salle? Quelqu'un a des remarques à formuler ou des questions à poser?
Juste après. Non. Voilà.
Alors, je vais vous répondre qu'entrer en maçonnerie coûte épouvantablement cher, je vous assure. Non, sérieusement. Allez, quand on devient maçon, il y a trois types de frais. Voilà, comme ça, c'est complètement transparent. Il y a une cotisation à payer à la loge dans laquelle on va entrer. C'est normal. Dans toute association, il y a des frais de fonctionnement, il faut les couvrir. Bien, cette cotisation-là, elle varie d'une loge à l'autre, pas d'une personne à l'autre, mais d'une loge à l'autre, en fonction du coût des locaux. Ici, ce n'est pas forcément le moins cher, mais ça varie entre 150 et 400 euros par an. Voilà, la fourchette. Vous ne trouverez peut-être pas beaucoup de loges à 150 euros, vous n'en trouverez pas beaucoup à 400 euros. En France, à Paris, je sais qu'il y a des loges où c'est plus cher, j'en connais, on ne va pas les citer, mais bon, voilà, c'est comme ça. L'immobilier à Paris est aussi plus cher, donc tout ça se répercute. Voilà, cotisation. Deuxième chose, le système maçonnique est organisé de telle manière qu'il y a des degrés. Selon les systèmes rituels, on ne va pas en parler, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais il y a des niveaux, on va dire. Et à chaque niveau, vous avez des cotisations différentes. Donc, cette cotisation en loge dite bleue, ben, elle peut s'additionner à d'autres cotisations qui sont moins onéreuses que vous devez payer une fois par an pour d'autres degrés maçonniques auxquels vous participez. Mais enfin, ça ne multiplie pas par deux le montant que j'ai dit tout à l'heure. Troisième type de frais, on n'a pas envie que je parle dessous. Hein.
C'est le grand architecte.
Voilà. Le troisième type de frais, eh bien, mes amis, c'est ce que vous allez dépenser au bar, c'est ce que vous allez dépenser lors des banquets. Et là, ça ne dépend que de vous. Bon, celui qui veut consommer ou offrir beaucoup, il a intérêt à avoir un portefeuille garni. Et celui qui a une faim ou qui veut inviter, il le fait aussi. Et là, c'est vraiment libre. Et puis, troisième type de frais, et puis c'est fini. Ben, ce sont les décors. Les maçonneries portent des petites choses, vous savez, des gants, des tabliers, des baudriers, des sautoirs. Ces choses-là, ben, ça a un coût, mais c'est vraiment, on les achète qu'une fois. On achète un tablier maçonnique une fois, on le garde toute sa vie. Voilà.
Il faut quand même préciser une chose, c'est que la notion de solidarité existe aussi en maçonnerie et que quand des frères ont des problèmes par rapport aux cotisations et autres, il existe des solutions internes qui font qu'un frère qui a des problèmes financiers, normalement, est aidé par ses frères et donc, ou une sœur enfin, également. Et donc, globalement, cette notion de solidarité intervient. Et même si l'on constate qu'aujourd'hui, la maçonnerie perçoit très fort la crise sociale, on a de plus en plus de frères qui sont en difficulté, qui perdent leur emploi. Je voudrais simplement dire une chose, le nombre de demandeurs d'emploi en maçonnerie est rigoureusement le même que dans la société. Hein. Le miracle de l'aide des frères aux frères ne fait pas toujours son œuvre, et donc nous avons des frères et des sœurs en difficulté, mais nous essayons tant qu'à faire de les aider. Monsieur.
Je voudrais aussi rebondir sur quelque chose que M. Liénard a dit tout à l'heure quant à l'utilité, peut-être même la nécessité de la mixité de croyances. C'est très bien, évidemment, mais est-ce que par hasard ça ne pose pas un problème si certaines obédiences exigent comme condition préalable pour y entrer de croire en un Dieu?
On va laisser notre ami français répondre. Non pas que je veux fuir, je vais répondre à ça, mais je le sens pétillant.
Disons que vous savez qu'en France, on essaye de pratiquer la laïcité. Il y a plusieurs tentatives d'explication de la laïcité. Moi, je crois que la laïcité, c'est d'abord et avant tout le fait de permettre, c'est la liberté absolue de conscience, c'est-à-dire le fait d'avoir le choix de ne pas être obligé de croire, et le fait d'avoir le désir de croire et le satisfaire. Donc c'est, je crois, en tout cas en France, on peut rentrer dans des obédiences qui correspondent à ses choix personnels. On n'est quand même pas obligé d'être tordu et de, lorsqu'on est extrêmement laïque, d'aller dans une obédience qui demande de certifier la croyance en un Dieu. Il y a aussi cette capacité de choix, cette richesse qu'on a en Europe continentale d'avoir une maçonnerie qui est très riche et très... très, très diverses, et on peut répondre à toutes ces problématiques par le choix initial. Après, de toute façon, on a le droit d'évoluer dans la vie aussi.
Oui, je voulais aussi préciser, parce que le paysage maçonnique français, je connais beaucoup moins le paysage maçonnique belge, mais le paysage maçonnique français est extrêmement divers, il y a beaucoup d'obédience, et donc je dirais que quelqu'un qui est en recherche trouvera... Il y a de fortes chances pour qu'il trouve, je vais être un petit peu trivial, mes chaussures à son pied. C'est vrai qu'en France, il y a des obédiences qui demandent à ce que les personnes croient en un Dieu révélé. D'autres qui sont plus souples, qui demandent juste que l'on croit, c'est le cas de mon obédience, la GLAMF, que l'on croit en un principe créateur. Que l'on croit en quelque chose et que par commodité, dans nos rituels, on va appeler Dieu. Et il y a des obédiences qui, elles, n'ont pas même cette tournure de phrase, qui demandent juste que l'on croit en un principe créateur, ou que l'on croit à ce que l'on veut. On a le choix.
Il n'y a pas de fermeture et théoriquement, la fraternité et la tolérance qui nous animent. Parce que quand on entre en maçonnerie, on commence quelque chose, mais on s'est mis dans une forme de mouvement. De mouvement qui va durer tout au long de notre vie, où on va progresser, et en particulier apprendre à aimer les autres, malgré tout, et donc à les tolérer. Ce qui, des fois, n'est pas forcément évident, mais dans tous les cas, il y a la possibilité de trouver véritablement ce qui nous correspond.
Voilà, je vais enfin répondre à la question qu'on me posait tout à l'heure.
Le meilleur pour la fin.
Eh bien, je vais parler pour la maçonnerie belge, évidemment, que je connais un petit peu mieux que la maçonnerie française, encore que la maçonnerie française ait cet avantage, de mon point de vue, d'être beaucoup plus diversifiée, c'est-à-dire d'offrir une cartographie maçonnique qui correspond à peu près toutes les sensibilités, de sorte qu'on ne va pas parler de shopping maçonnique pour celui qui veut entrer en maçonnerie, mais chacun peut trouver chaussures à son pied. Chacun peut trouver son bonheur. Je parlais tantôt du fait que se choisir un frère ou une sœur est une affaire de plaisir, de bonheur réciproque. Mais c'est ça. Celui ou celle qui veut entrer en loge ne va pas se torturer en voulant entrer dans une obédience qui ne correspond pas à sa sensibilité. Bon, donc je réponds déjà à une partie de la question. En ce qui concerne la Belgique plus spécifiquement, eh bien, les obédiences belges sont des obédiences dites libérales. Ça n'a rien à voir avec le parti politique du même nom, quoi qu'il fût une époque où, mais enfin bon, on ne va pas parler de ça. Le paysage maçonnique belge comporte une obédience qui s'appelle la Grande Loge régulière de Belgique et qui est la seule obédience reconnue par la Grande Loge unie d'Angleterre. Alors la Grande Loge unie d'Angleterre, il faut quand même que vous sachiez, parce que ça ne se dit pas beaucoup, mais ça doit se dire, qu'en 1989, c'est donc pas la semaine dernière, elle a viré de ses règlements généraux l'obligation de croire en un Dieu révélé. On a remplacé ça par un être suprême qui est un symbole dans lequel chacun met ce qu'il a envie de mettre. Bon, et donc toutes les obédiences maçonniques qui sont reconnues par la Grande Loge unie d'Angleterre sont priées, si le mot s'indique comme ça, de suivre le mouvement, et si elles veulent rester dans le cadre fixé pour appartenir aux obédiences reconnues par la GLUA, eh bien, elles sont priées de suivre le mouvement. Alors, en Belgique, et je réponds comme ça complètement à la question, j'espère, il y a 6 obédiences maçonniques. Je vais essayer de les citer par ordre d'importance numérique. Il y a, parce que c'est la plus ancienne et la plus nombreuse, le Grand Orient de Belgique. Vous avez ensuite, c'est pas par ordre d'apparition historique, quoique, si. Vous avez ensuite le droit humain, qui est une obédience mixte. Bon, alors en nombre de membres, allez comme ça, on dira quand même un petit peu. En nombre de membres, le GO, ça doit faire un peu plus d'un bon gros 10 000. Voilà. Le DH, droit humain, donc, parce qu'il y a une boisson du même nom qu'on consomme en maçonnerie. Bon, c'est à peu près 7 000 membres, sauf erreur de ma part. Puis suit la Grande Loge de Belgique qui comporte 4000 et quelques membres. Puis vient la Grande Loge féminine de Belgique qui comporte à peu près 2000 sœurs. Puis vient la Confédération de Loges Litos, qui est la dernière née en 2006, qui comporte à peu près 1000 membres. Mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance parce qu'il y en a qui appartiennent à plusieurs obédiences. Alors, indépendamment de celles que j'ai citées, il y a aussi la Grande Loge régulière. Ça fait donc 6 obédiences maçonniques belges. Indépendamment de ça... Hein, voilà, judicieuse observation... Les obédiences en question ont un stand à l'étage avec qui vous pouvez aller dialoguer si vous voulez en savoir plus. Et je termine en complétant sur un point. Il y a aussi en Belgique des obédiences non belges qui sont présentes à travers des loges qui ont une activité sur notre territoire. Voilà. Ainsi en est-il, par exemple, du Grand Orient latino-américain qui a 2 loges. Voilà, je ne vais pas en parler là comme ça. Ainsi en est-il de la Grande Loge mixte nationale de France, je crois que je n'écorche pas trop son nom, qui dispose d'une loge en Belgique. J'oublie aussi Memphis Misraïm, qui est un petit peu nébuleux, mais qui a aussi des loges en Belgique. Enfin bref, il y a à peu près 440 loges en Belgique. Alors vous voyez, il faut s'y retrouver. Voilà.
Y a-t-il d'autres questions ?
Vous avez en partie répondu à la question juste maintenant, mais c'était plus spécifiquement quand on connaît personne, effectivement, à part dans des événements comme celui-ci où effectivement il y a des gens en haut, quel est le meilleur moyen de découvrir l'obédience qui nous correspond ?
La question est pour moi ? Pour tout le monde ?
Le meilleur moyen, c'est déjà de se connaître un peu, c'est-à-dire de savoir quels sont vos centres d'intérêt. Est-ce que vous êtes plus par nature porté sur les questions ésotériques, spirituelles ou sur les questions sociétales ? Déjà, ça permet de faire le premier tri. Et après, c'est comme l'expliquait très bien Philippe, les loges, le recrutement, c'est agrégatif. C'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez votre interlocuteur et que votre interlocuteur sente comment vous allez pouvoir évoluer au sein de la loge. Ça se fait pas au cours d'entretien, je crois. Mais d'abord, il faut vraiment savoir quel est votre, de prime abord, quels sont vos centres d'intérêt.
Je ne sais pas. Il n'y a pas de recette. Ce que vient de dire Laurent est très juste, c'est une question de perception personnelle. Après ça, il y a Internet, il y a des contacts qui sont tout à fait possibles avec les obédiences lors d'événements comme celui-ci, c'est quand même une fois par an. Vous avez aussi, en tout cas pour la Belgique, c'est comme ça, les journées du patrimoine, une fois par an, où on peut découvrir des temples et rencontrer forcément des maçons, et dire tiens, écoutez, coucou, ça m'intéresse. Bon, puis peut-être que dans votre entourage direct ou indirect, il y a des maçons, il faut oser franchir le cap de prendre contact peut-être, mais il n'y a pas de recette véritablement, mais faites-le.
Ensuite, il y a aussi la possibilité que, à l'instant T, vous allez éventuellement faire la démarche de rencontrer des obédiences, de discuter avec les représentants ou les membres de cette obédience, et que vous allez vous dire pourquoi pas, mais qu'après, vous allez peut-être changer. Et ça, il ne faut pas s'interdire le fait de changer, voire même quand, admettons que vous entriez en franc-maçonnerie et que pour des raisons X ou Y, quelles qu'elles soient, vous considéreriez que l'obédience ou la loge à laquelle vous avez intégré ne vous correspond plus. Eh bien, vous avez là aussi la possibilité de changer de loge, de changer d'obédience. Alors certes, il y a des petites procédures administratives. Personnellement, moi qui suis un vrai phobique administratif, j'y ai survécu. Donc, si moi, autant vous dire que mon deuxième prénom, c'est pas Nobel. Hein, donc, j'y suis arrivé. Donc, tout le monde peut y arriver. Parce que de même, là on parlait un petit peu des sentiments personnels. Il y a aussi un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, qui est la mixité. Donc avec les obédiences qui sont mixtes, les obédiences qui sont exclusivement ou uniquement masculines ou exclusivement ou uniquement féminines. Et là aussi, il y a des ponts entre ces obédiences, c'est pas fermé. Vous pouvez passer de la grande loge, je suppose qu'on peut passer de la grande loge régulière de Belgique, reconnue par les grandes loges unies d'Angleterre, blablabla, mais qu'on peut passer ensuite au Grand Orient de Belgique et inversement. C'est pas des choses qui sont cloisonnées, hermétiques.
Eh bien, je vais malheureusement devoir considérer ceci comme un peu le mot de la fin, puisque je vois qu'il est... Il est midi, d'habitude on commence les travaux à cette heure-là, ici on va les terminer. Je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle effectivement, comme on l'a dit, que vous avez tout loisir d'aller prendre des renseignements sur les différentes obédiences présentes en Belgique, en ce compris la Grande Loge régulière, qui sont présentes ici. Je vous remercie de votre attention et au grand plaisir de vous voir un jour dans ce temple. Merci.